La réforme des retraites, une politique visant à abaisser le niveau de vie des retraités au profit du patronat. À peine les élections régionales passées, Sarkozy a annoncé la couleur. Il allait s'attaquer au dossier des retraites. Notre régime de retraite par répartition serait menacé d'explosion et il faudrait de toute urgence le réformer pour le sauver de la faillite. Jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a pas voulu dévoiler ses plans. Même aux dirigeants syndicaux et aux responsables de partis politiques reçus un par un pour consultation. Mais sur le fond, il n'y a pas de mystère. Il s'agit, a expliqué Woerth, ministre du Travail spécialement nommé pour prendre en charge la réforme, entre guillemets, d'allonger la vie au travail. Pour ce faire, le gouvernement hésiterait entre trois possibilités. Le recul de l'âge légal de départ à la retraite, l'allongement de la durée de cotisation requise pour obtenir une retraite à taux plein, voire, comme le propose le MEDEF, les deux. Ainsi, l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 60 ans depuis 1983, pourrait être repoussé progressivement à 61, 62 ou 63 ans, voire plus. Il pourrait aussi être maintenu, mais assorti d'une décote qui sanctionnerait financièrement les retraités qui s'obstineraient à vouloir partir à 60 ans, comme le suggèrent des députés de l'UMP. Quant à la durée de cotisation requise pour avoir droit à une retraite à taux plein, la loi de réforme des retraites, promulguée en 2003, alors que Fillon était ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Raffarin, l'a déjà allongée. Une autre piste, évoquée démagogiquement par le ministre du Travail, concerne le mode de calcul des pensions de retraite des fonctionnaires. Au moment du départ en retraite, le montant de la pension est calculé en appliquant un taux de 75% à un salaire de référence calculé sur les 6 derniers mois de salaire, alors que dans le privé, un taux de 50% s'applique à un salaire de référence calculé sur les 25 meilleures années. Il s'agirait d'achever de terminer d'aligner sur ce point le régime des fonctionnaires sur celui des salariés du privé. Pour justifier cette réforme, Woerth ose parler d'équité, alors qu'il ne s'agit que de réaliser plus d'économies sur le dos des fonctionnaires retraités. Allonger la durée de cotisation ou repousser l'âge légal de départ en retraite aboutirait à diminuer d'autant la durée de versement des pensions et donc permettrait au gouvernement de réaliser des économies sur le montant global des pensions versées. Mais ce serait aussi, dans la situation actuelle de chômage massif, une façon hypocrite de programmer une nouvelle diminution des pensions, dans la mesure où la plupart des salariés partent avant même l'âge légal de départ à la retraite, ne pouvant le plus souvent effectuer le nombre d'années requises. Quelles que soient les options qui auront été retenues, elles se traduiraient, si elles passaient, pour certains travailleurs, ceux qui auront la possibilité de travailler jusqu'au bout, par un allongement de la durée d'exploitation. Pour d'autres, ceux qui ont été licenciés à 1, 2 ou 5 ans de la retraite, par une aggravation considérable de leur situation. Oser proposer de reculer l'âge de départ en retraite au-delà de 60 ans, alors qu'aujourd'hui, au moment de faire valoir leurs droits à la retraite à 60 ans, au moins 40% des salariés sont en maladie, en invalidité ou, c'est la majorité, au chômage, est particulièrement inique. Car reculer l'âge de la retraite à 61, 62 ou 63 ans ou allonger la durée de cotisation reviendrait à condamner ces travailleurs à rester 1, 2 ou 3 ans de plus dans cette situation de grande précarité, à vivre d'allocations peau de chagrin en attendant de toucher la pension de retraite à laquelle ils ont droit. Ce n'est pas en reculant l'âge légal de la retraite que les salariés, dans leur majorité, travailleront plus longtemps. Le gouvernement le sait bien. Toutes les mesures qu'il a prises depuis 10 ans, soi-disant pour convaincre, mais jamais pour obliger, les patrons de ne pas licencier leurs travailleurs âgés, n'ont eu aucun effet. Dans la plupart des pays européens, où la loi a fixé à 65 ans l'âge légal de départ en retraite, en réalité, les travailleurs perdent leur travail en moyenne 3 ou 4 ans avant d'avoir atteint cet âge, à 61 ou 62 ans selon les pays, et partent en retraite avec une pension réduite. Et c'est ça le but. Non pas faire travailler plus, mais payer moins de retraite. En France, bien que l'âge légal de départ en retraite soit resté à 60 ans, aujourd'hui, en moyenne, les travailleurs font valoir leur droit à la retraite à 61 ans et 6 mois, alors qu'ils cessent de travailler, contraints et forcés, en moyenne à environ 58 ans. Il n'y a pas eu besoin de repousser l'âge de la retraite pour cela. Il a suffi que les gouvernements précédents durcissent les conditions pour obtenir une pension à taux plein. Et le gouvernement s'apprête à les durcir encore. Sarkozy a évoqué la possibilité d'instaurer, entre guillemets, un prélèvement spécifique sur une catégorie de population. Un prélèvement, a précisé Eric Woerth, portant sur, entre guillemets, tel type de profession, tel type d'assiette, ne contribuant pas suffisamment au système de solidarité. Mais, Fillon ayant exclu toute hausse importante des prélèvements, il s'agira donc tout au plus d'une mesure symbolique destinée à faire passer la pilule, si elle voit le jour. L'argument démographique. Un mensonge grossier. Sarkozy justifie sa réforme en expliquant que le système français de retraite par répartition, dans lequel ce sont les cotisations de ceux qui ont un emploi qui payent les pensions des retraités, serait menacé à court et à long terme. Et Sarkozy d'expliquer, entre guillemets, qu'aujourd'hui, sur 10 retraites que nous versons, il y en a une qui n'est pas financée. Si nous ne faisons rien, dans 10 ans, ce sera 1 sur 8. Cela parce que l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses du baby-boom et l'allongement continu de l'espérance de vie auraient, entre guillemets, plongé les régimes de retraite dans un déficit structurel. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, COR, organisme créé en 2000 par Lionel Jospin alors qu'il était Premier ministre, commandé par le gouvernement et rendu public le 14 avril, a évidemment apporté de l'eau à son moulin. C'est d'ailleurs son rôle. Il a donné lieu dans les médias, comme à chaque fois, à une véritable campagne d'intoxication. C'était à qui mettrait en avant le chiffre de déficit le plus impressionnant, la palme revenant à un article rendant compte du rapport du COR paru dans Le Monde du 14 avril. Entre guillemets, sans réforme, il faudrait 2600 milliards d'euros pour sauver les retraites en 2050. L'article omettait évidemment de préciser que ce chiffre impressionnant plus qu'hypothétique, qui cumule des déficits sur 40 ans, ne représente que 2,1% du PIB cumulé prévu sur la même période, qui atteindrait 120 000 milliards d'euros. Toute cette campagne de Sarkozy et du MEDEF, relayée complaisamment par les médias pour convaincre les travailleurs, la population de la nécessité d'une réforme, peut-être pour les préparer à la sévérité des mesures qui les menacent, repose sur un mensonge grossier. D'abord, parce que les prévisions d'évolution de la démographie sont plus que sujettes à caution. L'évolution de la démographie dépend d'un grand nombre de facteurs économiques, sociaux et même politiques dont il est impossible de prévoir avec certitude l'évolution à long et même à moyen terme. C'est un peu comme vouloir prévoir le temps qu'il fera dans 40 ans. Entre 2001 et 2006, l'INSEE a dû réviser ses estimations de la population française en 2050 parce que ses hypothèses sur le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme, et sur l'immigration s'étaient révélées erronées en 5 ans. Et comment prendre au sérieux les prévisions pour 2050, c'est-à-dire pour dans 40 ans, de soi-disant experts qui n'ont pas vu venir la crise financière et la grave récession dans laquelle nous sommes plongés depuis 3 ans, et qui sont bien incapables de prévoir ce qui va se passer l'année prochaine et même le mois prochain. Si les économistes de la bourgeoisie pouvaient prévoir l'avenir, cela se saurait. Surtout, ce n'est pas parce que l'espérance de vie s'accroît régulièrement, jusqu'à présent et très inégalement selon les classes sociales, et que le nombre de personnes âgées s'accroît plus vite que le nombre de jeunes, qu'il serait pour autant nécessaire de repousser l'âge de départ à la retraite. Parce que la productivité du travail, c'est-à-dire le volume de richesse que chaque travailleur est capable de produire, s'accroît aussi. Et parce qu'il serait bien normal qu'une part croissante des richesses produites profite aux retraités, dans la mesure où ils sont plus nombreux et vivent plus longtemps. La baisse du nombre d'agriculteurs n'a pas provoqué de famine. Vers 1950, la France comptait 8 millions d'agriculteurs pour 40 millions d'habitants, soit un agriculteur pour 5 bouches à nourrir. En 50 ans, le nombre de paysans français a été divisé par 10, mais la production de chacun peut nourrir aujourd'hui près de 100 personnes. Les économistes d'il y a 50 ans avaient-ils prévu cette évolution ou crié à la catastrophe alimentaire inévitable ? Dans l'industrie, un travailleur produit aujourd'hui, pour chaque heure de travail, en moyenne au moins 10 fois plus de valeur qu'un travailleur d'il y a un demi-siècle, à cause du progrès technique, mais aussi en raison de l'intensité sans cesse croissante du rythme de travail imposé à ceux qui ont un emploi. Aujourd'hui, il suffit de 10 ouvriers pour faire tourner des aciéries gigantesques là où il en fallait 100 il y a 30 ans, et cela pour une production décuplée. Si la productivité continue à progresser au même rythme qu'au cours des dernières décennies, la richesse produite par habitant devrait doubler en France. Il y aurait largement de quoi faire vivre dignement, non seulement les retraités, même plus nombreux, mais même tous les travailleurs. Le problème, c'est de savoir qui va profiter de cet accroissement de la production des richesses. si le financement des retraites est menacé aujourd'hui, ce n'est pas parce que, globalement, on vit plus longtemps qu'hier. C'est parce qu'au cours des années 80 et 90, tous les gains de productivité ont été accaparés par les patrons qui les ont de moins en moins investis dans la production et de plus en plus redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires. C'est parce que la bourgeoisie a réussi à faire payer la crise, sa crise, aux travailleurs et a réussi, avec la complicité de gouvernements à son service, non seulement à préserver ses revenus, mais même à les accroître comme jamais. Par le chômage et la surexploitation des travailleurs, par les bas salaires et la multiplication du travail précaire, mais aussi par le pillage du budget de l'État et, en particulier, du budget de la sécurité sociale. Au cours des années 80 et 90, la part globale des salaires dans la valeur ajoutée, les richesses produites, s'est réduite de presque 10%. Quant aux exonérations de cotisations patronales au régime général de la sécurité sociale, devenues récurrentes et massives depuis le début des années 90, elles ont connu avec la crise une brutale augmentation, passant de 24 milliards d'euros en 2006 à 30 milliards en 2009. Une partie de ces cadeaux aux patrons n'est pas remboursée par l'État à la sécurité sociale et constitue donc pour elle une perte sèche, régulièrement de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Mais les milliards qui sont remboursés à la sécurité sociale le sont en fait par les travailleurs, par la population, par la CSG instaurée en 1991 par Rocard et par les augmentations de taxes et constituent de fait un transfert de charges des patrons sur les travailleurs. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus visible. Le déficit du régime général de la sécurité sociale, dont la branche vieillesse, qui finance les retraites de base des salariés du privé, fait partie, devrait passer, selon le gouvernement, de 10 milliards d'euros en 2008 à 22,7 milliards d'euros en 2009 et atteindrait, d'après le chiffrage du gouvernement, près de 34 milliards en 2010. C'est la branche maladie qui serait la plus déficitaire, devant la branche vieillesse, dont le déficit passerait de 5,6 milliards en 2008 à 11,3 milliards en 2010. C'est beaucoup moins que le trou creusé dans le budget de l'État, dont le déficit atteint près de 118 milliards d'euros, par toutes les aides versées aux banquiers et aux industriels depuis 3 ans pour leur sauver la mise. Les deux principaux régimes complémentaires des salariés du privé, l'ARCO et l'AGIRC, sont devenus brutalement et pour la première fois dans leur histoire déficitaires en 2008, 2009 et 2010 de 5,8 milliards d'euros en raison, note le dernier rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, d'une part, entre guillemets, des effets de la récession, mais surtout, entre guillemets, de la crise financière qui leur a imposé de passer d'importantes provisions pour moins-value sur leurs placements en actions, 4,1 milliards au total. Ce sont l'aggravation de la crise économique que nous subissons depuis 2007, l'explosion du chômage et l'appauvrissement d'une fraction de plus en plus importante de la population qui, se traduisant par un effondrement des rentrées de cotisations, 23 milliards en 3 ans selon un rapport officiel, explique la brutale augmentation du déficit. La démographie n'y est pour rien. S'il n'y a pas assez d'actifs, c'est-à-dire de cotisants, par rapport au nombre de retraités, ce n'est pas parce qu'il y a trop de retraités, c'est parce qu'il y a trop de chômeurs, trop de travailleurs précaires, sous-payés, trop de jeunes qui n'arrivent pas à trouver un premier travail. Ce n'est pas un problème démographique, c'est un problème social, c'est un problème d'emploi et de salaire. 40 ans d'attaque contre les retraites et les retraités. Les difficultés financières de la sécurité sociale et de sa branche vieillesse en particulier, et les mesures prises sous prétexte de sauver le système de retraite existant en France, ne datent pas d'hier, ni de l'arrivée de la génération du papy-boom à la retraite. Ces premiers déficits sont nés au milieu des années 70 avec la crise de l'économie capitaliste et l'apparition du chômage. Et ils ont été nourris, depuis et jusqu'à la phase actuelle d'aggravation de la crise, par le développement du chômage et du travail précaire, la pression sur les salaires et l'avidité de la bourgeoisie. Pour renflouer les caisses que la crise avait commencé à vider, à partir de 1974 et jusqu'au début des années 90, les gouvernements, de gauche comme de droite, ont multiplié les augmentations de cotisations retraite, celles des salariés surtout, et, dans une moindre mesure, celles des patrons. Entre 1974 et 1991, les taux de cotisation retraite des salariés à la CNAV ont plus que doublé, alors que ceux des patrons n'ont augmenté que de 40%. ce qui revenait à faire peser de plus en plus la charge du financement des retraites sur les salariés et de moins en moins sur les patrons. Mais pour ces derniers, ce n'était pas suffisant. Le patronat mena campagne sur le thème du poids insupportable des charges sociales pour l'économie. Les patrons ne voulaient pas payer un sou de plus. Ils voulaient même payer de moins en moins. Ils furent entendus. À partir de 1991, les gouvernements successifs, de gauche et de droite, n'ont plus osé toucher aux cotisations pour la retraite, y compris celles des salariés. Dans un contexte de compression des salaires, les patrons craignaient que les augmentations de cotisations alimentent le mécontentement des travailleurs et nourrissent les revendications salariales, entraînant par contre-coup des augmentations de salaires. La part salariale des cotisations à la CNAV, passée de 3% en 1970 à 6,60% en 1982, est restée pratiquement au même niveau jusqu'à aujourd'hui, 28 ans après, 6,65%. Même chose pour la part patronale, qui avait atteint 8,2% en 1979 et qui est aujourd'hui de 8,30%. Les gouvernements qui se sont succédés ne se sont pas contentés de geler les taux de cotisation sociale patronale sous le prétexte de favoriser l'emploi. Ils ont, jusqu'à aujourd'hui, multiplié les exonérations de charges patronales. Les taux des cotisations sociales patronales sont donc devenus très théoriques. En fait, non seulement les patrons n'ont pas payé plus pour la sécurité sociale et pour les retraites en particulier, mais ils ont même payé moins. À partir du début des années 90, ce sont les travailleurs et les retraités, seuls, qui allaient faire les frais des déficits creusés par le chômage et les bas salaires dans les caisses de retraite, par la diminution des pensions. C'est un ministre de gauche, Rocard, en 1991, qui, dans le livre blanc de la retraite, rédigé sous son égide, fut le premier à prétendre que notre système de retraite était menacé d'explosion à terme du fait de l'allongement de l'espérance de vie et de la croissance trop rapide du nombre de retraités par rapport aux actifs, et qu'il était urgent, pour le sauver, de le réformer en profondeur pour limiter ses dépenses. Mais en 1993, c'est un gouvernement de droite, celui de Balladur, Premier ministre, avec un président de gauche, Mitterrand, qui mit pour la première fois cette idée en pratique en s'attaquant aux retraites des salariés du privé. Aux futurs retraités, la réforme imposait l'allongement de la durée de cotisation pour avoir droit à une retraite complète à 60 ans. De 37 annuités et demie en 1993, elle devait passer à 40 annuités en 2004, à raison d'un trimestre de plus par an. La réforme modifia également les modalités de calcul des pensions. En prenant pour référence les salaires des 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures, salaires qui seraient réévalués au moment du départ à la retraite, non plus par rapport à l'évolution des salaires sur la période, mais par rapport à celle des prix. De la même façon, l'augmentation du montant annuel des pensions de retraite versées serait indexée non plus sur l'évolution des salaires, mais sur celle de l'indice des prix, dont on sait qu'il ne reflète pas l'évolution réelle des prix. Les travailleurs eurent sans doute bien du mal à l'époque à mesurer la portée de ces changements de référence. Ce sont pourtant les mesures qui, en creusant l'écart entre le niveau des pensions et celui des salaires, ont eu rapidement le plus d'impact sur le niveau de vie des retraités. Enfin, la réforme instaura une décote destinée à pénaliser les salariés qui prendraient leur retraite entre 60 et 65 ans sans avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir le taux plein. Leur retraite, déjà diminuée du fait de leur durée trop courte de cotisation, puisqu'elle est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés, serait en outre réduite de 2,5% par trimestre manquant, soit 10% par année manquante. Note, depuis 2004, le taux de décote décroît progressivement pour atteindre, en principe, 1,25% par trimestre manquant, soit 5% par an. Une double peine qui pénalise beaucoup plus les femmes que les hommes, dans la mesure où une proportion beaucoup moins importante de femmes que d'hommes parviennent à l'âge de la retraite avec une carrière complète. Dans le privé, elles sont plus de 60% à ne pas atteindre les 40 annuités de cotisation requises. L'inégalité entre hommes et femmes face à la retraite en a été considérablement accrue. En 2007, en droit direct, c'est-à-dire hors pension de réversion, dans le privé, tout régime confondu, le montant moyen de la pension atteignait globalement 1108 euros, mais 1410 euros pour les hommes et 811 euros pour les femmes. Dans le même temps, le mode de calcul des pensions de retraite complémentaires versées par l'ARCO pour les ouvriers et les employés et par l'AGIRC pour les cadres fut lui aussi réformé de la même façon et aboutit à réduire la part financée par les patrons et diminuer encore le montant des retraites. En 1995, après l'élection de Chirac à la présidence de la République, Juppé voulut appliquer les mêmes traitements restrictifs au régime de retraite des fonctionnaires et à ceux des travailleurs de la SNCF, de la RATP, d'EDF, GDF, etc., qui jusque-là avaient été épargnés. Il se heurta au plus puissant mouvement de grève que la France ait connu depuis 1968 et dut remballer son projet. Entre 1997 et 2002, le gouvernement de la gauche plurielle, avec des représentants du Parti socialiste, du Parti communiste et des Verts, dirigé par Jospin, avec Chirac à l'Élysée, ne revint pas sur la réforme de Balladur. En mai 2000, il créa le Conseil d'orientation des retraites avec pour objectif, entre guillemets, de favoriser le consensus sur la question des retraites. Au Conseil européen de Barcelone, réunissant en mars 2002 les chefs d'État et de gouvernement des 15 pays membres à l'époque de l'Union européenne, Jospin et Chirac signèrent, ensemble, un document où ils s'engageaient à reculer en France l'âge de la retraite à 65 ans. En 2003, après que Chirac eut remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002 avec le soutien de la gauche, Fillon, ministre du Travail dans le gouvernement Raffarin, s'attaqua à nouveau aux retraites et aux retraités. La réforme Fillon décidait que tout allongement de l'espérance de vie, c'est-à-dire du temps de retraite, serait désormais compensé par un allongement du temps de travail. Pour commencer, la durée de cotisation pour obtenir la retraite à taux plein passait de 40 ans à 41 ans en 2012, à raison d'un trimestre de plus par an à partir de 2009. Et sous le prétexte fallacieux de rétablir l'équité avec les salariés du privé, il imposait aux fonctionnaires l'allongement de leur durée de cotisation de 2 trimestres supplémentaires par an à partir de 2003 pour passer de 37,5 à 40 ans en 2008 pour atteindre, comme les salariés du privé, 41 ans en 2012. Quant à la progression annuelle des pensions, elle serait désormais indexée non pas sur l'évolution des traitements de la fonction publique, mais sur les prix, ce qui était beaucoup moins favorable. Et à partir de 2006, les fonctionnaires partant à la retraite, sans pouvoir justifier de la durée de cotisation requise, verraient eux aussi leur pension diminuer d'une décote. De 0,5% par année manquante en 2006, elle doit atteindre progressivement 5% en 2015. En 2007, après l'arrivée de Sarkozy à l'Élysée et de Fillon à Matignon, ce sont les régimes de retraite dits spéciaux des travailleurs de la SNCF, de la RATP, d'EDF, GDF, etc. qui furent visés. Leur durée de cotisation, restée à 37 ans et demi, serait allongée progressivement pour atteindre 40 ans d'ici 2012 et 41 ans en 2016, et leurs retraites furent indexées, elles aussi, sur les prix et plus sur les salaires. Il faut empêcher la réforme Sarkozy et revenir sur les précédentes. La réforme de 2003 avait programmé un rendez-vous tous les 4 ans pour adapter l'évolution de la durée de cotisation pour les 5 années à venir en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. Le premier rendez-vous eut lieu en 2008 et se borna à confirmer l'allongement progressif de la durée de cotisation à 41 ans décidée en 2003. Le rendez-vous suivant, prévu pour 2012, date de la prochaine élection présidentielle, fut avancé à 2010. Et si une nouvelle réforme est programmée, ce n'est pas parce que l'espérance de vie aurait augmenté plus vite que prévu en 2003. Les nouvelles prévisions à ce sujet indiquent plutôt une tendance à la stagnation, mais sous la pression du MEDEF. Bien qu'elles se soient appliquées progressivement et ne produiront leur plein effet qu'à long terme, ces différentes réformes ont d'ores et déjà fortement pesé sur le montant des pensions, au moment du départ en retraite et pendant la retraite, et entraîner une baisse du niveau de vie des retraités. Selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour 6 retraités sur 10, la réforme Balladur, entre guillemets, a conduit au versement d'une pension moins importante que celle à laquelle ils auraient pu prétendre sans réforme. La différence est de 6% en moyenne pour l'ensemble des salariés du privé. Par exemple, les hommes nés en 1938 et donc faisant valoir leur droit à la retraite en 1998 ont touché à leur départ une pension moyenne mensuelle, hors retraite complémentaire, de 593 euros, 55 euros de moins que si la réforme n'avait pas eu lieu. Avant la réforme Balladur de 1993, la pension de retraite représentait en moyenne 84% de l'ancien salaire pour les salariés du privé et même jusqu'à 100% pour ceux qui gagnaient moins de 7 500 francs, à condition d'avoir cotisé 37 ans et demi. Aujourd'hui, elle ne représente déjà plus en moyenne qu'à peine les 3/4 du salaire antérieur. indépendamment des projets de Sarkozy, du simple effet donc des réformes antérieures, elle devrait encore diminuer pour ne plus représenter que les deux tiers de l'ancien salaire vers 2040. Ces chiffres, qui sont des moyennes, sont loin du compte. Ils ne donnent qu'une idée très éloignée de l'impact réel des réformes sur les retraités. Ils ne concernent en effet que les retraités qui ont travaillé à temps plein et cotisé 40 ans au moment de leur départ en retraite, ce qui est le cas de moins en moins de retraités. Les réformes des régimes de retraite intervenues au cours des 20 dernières années ont profondément dégradé la situation des retraités. De plus en plus de retraités, en majorité des femmes, dont les pensions sont insuffisantes pour leur permettre de manger à leur faim, sont contraints de fréquenter les restaurants du cœur. Alors, il est vital pour la classe ouvrière, pour la population, d'empêcher la réforme de Sarkozy-Fillon de passer. Non pas parce que le régime de retraite tel qu'il fonctionnait jusqu'à la réforme de 1993 aurait été le système idéal. Son histoire, depuis sa mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, témoigne du contraire. Il faut bien sûr combattre toutes les tentatives pour réduire la part du régime de retraite par répartition, où ce sont les cotisations sur les salaires qui financent les pensions de retraite, au profit de régimes fonctionnant en capitalisation. Mais il est faux de faire du système actuel un acquis du mouvement ouvrier. Au début du XXe siècle, en 1910, quand fut adoptée la première loi instaurant un régime public de retraite obligatoire pour l'ensemble des travailleurs, la retraite ouvrière et paysanne, les ouvriers conscients, les militants syndicaux, soutenus par les meilleurs militants socialistes de l'époque, s'y sont opposés. Pas seulement parce que ce régime de retraite serait géré en capitalisation, mais d'abord parce qu'il serait financé par des cotisations, c'est-à-dire par un prélèvement sur les salaires. Pour les militants de cette époque, c'était aux patrons et à tous ceux qui s'étaient enrichis pendant des années grâce à leur travail de financer sur leurs fortunes accumulées les années de retraite des ouvriers. Pour eux, ces cotisations, c'était du vol, un vol de plus. Il fallait faire payer les riches. De ce point de vue, un régime de retraite par répartition n'aurait pas non plus trouvé grâce aux yeux des opposants ouvriers à la loi. Parce que c'est un régime qui fonctionne en circuit fermé, les retraites des travailleurs étant financées par les travailleurs, et que cela revient à faire payer les pauvres. Enfin, les syndicalistes et les socialistes révolutionnaires du début du XXe siècle n'avaient pas confiance dans l'avenir que la société capitaliste leur préparait. Ils avaient raison. Moins de 4 ans après l'adoption de la loi, la guerre de 1914 éclatait et la société capitaliste entrait en crise pour longtemps. Un système de retraite fondé sur la capitalisation, où les cotisations sont placées sur les marchés financiers, soumet les retraites à tous les aléas de la bourse. Les retraités des pays où c'est ce type de régime, celui des fonds de pension, qui a été adopté, en font aujourd'hui la mère expérience. Mais un système de retraite fondé sur la répartition, les cotisations des actifs finançant les pensions des retraités, comme celui qui existe en France, ne protège pas non plus les travailleurs et les retraités des à-coups de l'économie capitaliste, ni les retraites de l'impact de ces crises. Nous avons commencé à en faire l'expérience. Mais rien n'est joué. Le problème des retraites est un problème social, un problème de rapport de force entre la bourgeoisie, son État et les travailleurs. Il n'est pas séparable de celui de l'emploi et des salaires. Il naît des bas salaires, du chômage, des licenciements, des suppressions de postes de fonctionnaires. Dans cette épreuve de force avec la bourgeoisie et ses représentants politiques, les travailleurs ne peuvent pas compter sur la gauche gouvernementale. Ils ne peuvent pas espérer d'un retour au pouvoir du Parti socialiste dans un gouvernement, entre guillemets, de la gauche solidaire, version replâtrée de la gauche plurielle, un retour demain sur la réforme que Sarkozy prépare aujourd'hui. L'expérience des 20 dernières années, des différents gouvernements de Mitterrand, de Mauroy à Fabius, en passant par Rocard dans les années 80 et 90, au gouvernement Jospin-Aubry entre 1997 et 2002 en témoigne. Tous ont entériné, quand ils ne les ont pas préparés, comme Rocard, les reculs successifs imposés par la droite en matière de retraite. Depuis que l'économie capitaliste est entrée en crise, au milieu des années 70, la bourgeoisie a réussi, avec l'aide des gouvernements, à réduire la part des travailleurs dans le revenu national et à augmenter la sienne. Mais depuis 3 ans, la crise est entrée dans une phase aggravée dont on ne voit pas la fin. pour sauver la mise aux banquiers spéculateurs, pour venir en aide aux industriels licenciés, en fin de compte, pour permettre à la bourgeoisie de traverser sa crise sans rien perdre, et même en continuant à s'enrichir, l'État s'est endetté sans compter. Avec la réforme des retraites, la bourgeoisie et le gouvernement veulent commencer à présenter la note aux travailleurs, à la population. Et ce n'est sans doute qu'un début. La violente attaque que subissent actuellement les travailleurs grecs contre leurs conditions de vie est à l'image de ce que les gouvernements, dont le nôtre, préparent pour faire supporter au monde du travail tous les frais de la faillite de leur économie. Raison de plus pour empêcher la loi Sarkozy de passer et même pour imposer l'annulation de toutes les dispositions des réformes de 2003 et de 1993. Il faut imposer de revenir, pour tous, aux 37 ans et demi de cotisation pour avoir droit à une retraite pleine, de rétablir le lien entre l'évolution des retraites et l'évolution des salaires, et de maintenir l'âge légal de départ en retraite à 60 ans. Et il faut imposer l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, en prenant sur les profits accumulés. C'est la seule façon pour les travailleurs de sauver leur retraite. 5 mai 2010.